BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Tout pour investir, l'émission qui participe à votre éducation financière, qui vous aide à faire fructifier votre patrimoine, qui vous instruit, qui vous aide à faire de vous de meilleurs investisseurs. Et on est en direct évidemment à la radio, sur le web, à la télé, en podcast et en replay. Vous retrouverez toutes nos chroniques, toutes nos rubriques, et évidemment, c'est votre bibliothèque patrimoniale personnalisée. Énergie, matières premières, souveraineté, trois thématiques reines en Europe et celles qui vous intéressent le plus, d'ailleurs, si on sort un petit peu de l'agitation du moment autour de l'IA ou de SpaceX. Et ça, ça va être notre triple entrée d'actualité ce matin avec nos déchiffreurs, Bastien Baron de Justeil et Olivier Le Chevalier de DeftEdge. Arbitrage de court terme aussi sur les marchés actions, on sera avec Valentin Nico de Bourse Direct. Et puis, plein de rubriques pratiques, rien que pour vous. Déjà, la France qui n'arrive pas à répondre à une question finalement assez simple. Qu'est-ce qu'être riche ? On a une commission parlementaire en ce moment qui travaille sur l'imposition des hauts, des très hauts patrimoines français. Et cette simple question de départ, c'est quoi un haut patrimoine ? Et on n'arrive toujours pas vraiment à y répondre. On essaiera quand même d'y voir plus clair dans la boîte à outils avec Olivier Jeanneret de Duroc Partners. Ah, la voix des family office, très intéressant. Il faut vraiment qu'on fasse des points réguliers avec eux dans cette émission. C'est un peu l'avant-garde de l'investissement. C'est important qu'on entende leur voix dans cette émission et surtout avec un baromètre, un panorama précis de leurs priorités, de leur stratégie. Focus très intéressant avec Pierre de Pelgars tout à l'heure. C'est le porte-parole de l'Association française des family office. Il sera avec nous en direct. Et puis canicule, été, ça rime avec rosé. On va consommer avec beaucoup, beaucoup de modération, surtout avec cette chaleur, c'est un petit peu traître. Mais est-ce que les rosés sont de bons vins d'investissement quand on veut se créer une collection et une bonne cave de valeur ? Réponse avec Angélique de l'Axin d'Ideal Wine pour terminer l'émission tout à l'heure. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par mail. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Nous envoyez un SMS au 732-16, mot-clé business suivi de votre message. Sinon, vous me posez vos questions directement sur Twitter ou LinkedIn. Le reste de l'actualité du jour, la canicule qui se poursuit à travers le pays, évidemment, elle provoque de premières coupures de courant. Il y a plus de 60 000 foyers privés de courant du côté du Finistère ce matin. Canicule qui pourra aussi s'imposer dans le projet de loi logement qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. C'était pas le cœur du texte qui ambitionne d'abord de simplifier les règles pour construire ou encore d'élargir l'aide à l'investissement locatif. Mais évidemment, faut tenir compte de l'actualité. Il faut maintenant s'attendre à l'introduction de mesures sur les bouilloires thermique dès l'arrivée du texte à l'Assemblée. Par ailleurs, l'encadrement des loyers pourrait être prolongé 2 ans de plus. L'expérimentation est censée s'arrêter fin novembre, mais le gouvernement annonce qu'il soutient un texte socialiste qui propose de rallonger le test dans les communes déjà concernées. Il sera inscrit à l'ordre du jour du Sénat après l'été. Le budget des armées, députés et sénateurs sont accordés en commission mixte paritaire. Ils valident la rallonge de 36 milliards d'euros d'ici 2030. Le vote final est prévu le 1er juillet. Enfin, l'actualité des entreprises. Information BFM Business ce matin. Vous pouvez retrouver le dossier complet sur notre site internet. Mais un plan de départ géant se profile chez SFR. 4500 salariés sur les 8000 sont menacés par le rachat de l'opérateur par ses trois concurrents. C'est quand même plus de la moitié. Bouygues, Free et Orange, dont des représentants seront reçus d'ailleurs par les syndicats de SFR lors d'un CSE ce matin. Tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Il y a un CAC 40 qui fait course en tête. Aujourd'hui, après la séance un petit peu volatile, pas dramatique, du côté des marchés européens. Hier, c'était plutôt du côté de Wall Street, où on a vraiment fait les montagnes russes et on a eu de brusques décrochages. On a quand même limité la casse pour le Nasdaq. Hier, il a quand même perdu 2,2%, alors que le Dow Jones a terminé quasi inchangé. Les marchés européens résiste encore une fois ce matin, mais particulièrement Paris, qui grâce à sa répartition sectorielle arrive quand même à signer de belles performances. Donc on gagne 0,22%, 8359 points, alors que l'Eurostock 50 lui perd 0,14%, que le DAX à Francfort perd 0,8% et moins 0,37% du côté de Madrid. Ce qui nous aide à résister, les biens discrétionnaires, on va dire encore, sur le CAC 40. L'Oréal, plus forte hausse, plus 2,5, 385,60 €. On a Pernod Ricard aussi, plus 2,36 à 66 €. LVMH, plus 1,66 à 491,75 €. On continue à travailler tranquillement les valeurs de la santé. Regardez, Eurofins Scientifique gagne 1,3% à 66,06 €. À la baisse, en revanche, on a singulièrement le secteur de la défense. On a une forte baisse de Rheinmetall du côté de la bourse de Francfort. Apparemment, des problèmes sur l'attribution d'un contrat naval à un contrat de construction de bateaux dont le financement est soumis à des aléas politiques un petit peu compliqués. Donc du coup, Thales recule d'1,8% à 223,90€. Sur le SBF 120, c'est Exosens qui signe la plus forte baisse à moins 6,5€, 54,60€. Donc effectivement, c'est pas le jour de la défense, hein, précisément. Publicis signe une baisse d'1,9% à 86,48€. On a EssilorLuxottica à moins 3,15% à 162,85€. Un mot de l'euro qui s'est clairement installé sous 1,14. Hein, ça y est, puis on n'en bouge plus. 1,1350 à l'instant. Du côté des matières premières, ben ça continue de baisser du côté du pétrole. On va en reparler dans quelques secondes avec nos déchiffreurs. Le Brent de mer du Nord, $75,58 et $72 pour le brut léger américain. L'once d'or fin poursuit à la baisse et maintenant on commence à attaquer le support des $4,000. On en parlera aussi. $4,094 à l'instant pour l'once de métal fin. Tout de suite, on déchiffre.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Olivier Le Chevalier d'Eftedge, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et Bastien Baron de Juste AI.
Bonjour Antoine.
Merci d'être en direct. On va parler de trois thématiques hein, qui nous intéressent. L'énergie, les matières premières et la souveraineté. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, parce que c'est vraiment les trois dynamiques qui nous portent en Europe, si on sort un petit peu de l'ordinaire de la tempête autour de l'IA et des arbitrages autour de la valorisation de l'IA qui concerne plus les marchés américains. On va peut-être commencer par le pétrole. On en sort, ça y est, $75 pour le Brent. Et malgré l'agitation géopolitique, malgré le fait que rien n'est sûr sur les accords, le cadre de l'accord, l'accord de paix, les négociations entre Iran et les États-Unis, bon, on en a pour deux mois là, malgré tout, le pétrole, ça y est, semble avoir refermé le couvercle. C'est-à-dire qu'on a pu ces brusques poussées spéculatives au-delà des $100. On est vraiment installé du côté des 80, un petit peu moins, là, 75. Est-ce qu'on n'a pas fixé les bornes du côté des marchés? Est-ce qu'on ne s'est pas dit, voilà, ça y est, on y est et on n'en bougera plus cette fois?
Alors ça, je ne peux pas vous dire si on va en bouger ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est effectivement, depuis qu'il y a eu l'accord, bah, ça a détendu quand même le marché, ça a permis à tout le monde un peu d'être rassuré, de se dire que tout le monde peut-être pourra partir en vacances, on pourra voyager. Ça, c'est plutôt sympa. Mais typiquement, en fait, ce qui se passe, c'est quand même le négociateur de l'Iran a quand même précisé qu'il laisserait pas passer les bateaux comme ça.
Ben voilà.
Donc du coup, ce qui se passe, c'est que sur le marché, la prime de risque liée au pétrole, elle est encore là. Donc du coup, on ne sait pas pendant combien de temps ça va s'installer, mais en tout cas, pour le moment, c'est vrai que c'est dans la prime de risque, c'est pricé autour du prix. Donc est-ce qu'on va avoir les mêmes niveaux que le souhaitait Trump avant la période des Trois d'Hormuz? C'est un peu probable pour le moment, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais effectivement, on a pricé cette prime de risque sur le marché, et donc là, on va peut-être aller dans les 70, 75, on va peut-être s'étalonner pendant cette période. Et donc, du coup, on a ce moment, en fait, un peu délicat, où de toute façon, tant qu'on n'est pas figé non plus sur tout ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, on va, je pense, encore un peu tâtonner sur cette partie.
Effectivement, et c'est assez contre-intuitif d'ailleurs, parce que alors on en parle depuis des mois du côté de nos invités sur Tout pour investir, mais on a l'or, par exemple, qui continue de baisser, alors que les incertitudes sont quand même fondamentalement au plus haut, alors que l'inflation repart, alors qu'on a des incertitudes monétaires un peu partout. Mais non, rien à faire. La valeur refuge, la valeur défensive par excellence, c'est le dollar. On n'en bouge pas. Et l'or finalement corrige très très nettement. On commence à attaquer les $4,000. Et c'est vrai qu'avec nos invités, on était tenté de se dire oui, bon, il y a une saine consolidation, on était monté trop vite, trop fort. C'est un petit peu comme la tech ou l'IA. Là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est peut-être un petit peu en train de changer, Bastien Baron?
À court terme, potentiellement. Ouais. On voit qu'il y a eu quand même aussi une forte spéculation sur tout le début d'année, janvier-février. Ensuite, il y a quand même eu des ventes non négligeables qui ont eu lieu. Certaines banques centrales, notamment en Turquie, pour soutenir la monnaie, en Russie, pour financer la guerre. Donc ça, c'est des vrais sujets. On voit que finalement, depuis deux semaines, on a aussi une décorrélation absolument parfaite entre, suite au discours de Kevin Warsh concernant le dollar qui est en train de s'apprécier du coup de manière assez forte hein, depuis à peu près deux semaines. À l'inverse, du coup, l'or est directement libellé en dollars. Donc on voit l'effet inverse qui se produit. Et puis il y a un truc qui est assez simple, c'est qu'il y avait quand même, si on se repositionne au début d'année, il y avait quand même des anticipations de baisse de taux qui étaient attendues. Finalement, là, suite, on voit que la Banque Centrale Européenne vient d'augmenter, on voit que la Fed c'est quasiment fait pour qu'il n'y ait pas de baisse cette année. On discute potentiellement plutôt de hausse. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des rendements en fait qui peuvent être attendus sur la partie dollar, sur la partie dette, sur les govies, etc., qui peuvent être intéressantes. Et il ne faut pas oublier que l'or ne rapporte rien. Donc, c'est un vrai sujet aussi, je pense, pour la suite. Donc, nous, à court terme, on n'est pas forcément très positif sur l'or, mais dans un scénario de plutôt une approche long terme, on pense que c'est toujours intéressant. Surtout qu'il y a eu aussi pas mal de... Vu qu'il y avait eu de la spéculation en début d'année, il y a eu pas mal de ventes qui ont été faites sur les parties, sur les ETF gold.
Oui, beaucoup sur leur papier. Hein.
Exactement. Ouais, ouais. Et derrière, pour aller vers quoi ? Vers la tech. Mmh. Donc, c'est ça l'arbitrage qui a été fait. Donc, ça veut dire que si
SpaceX.
Ouais, par exemple. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que derrière, si on veut être diversifié dans un patrimoine assez diversifié, finalement, l'or, à long terme, en tout cas, garde toujours, reste toujours intéressant. Surtout si on était positionné depuis quelques années et le chemin parcouru a quand même été assez dingue sur les 24 derniers mois.
Non, ça, faut pas l'oublier. Et puis, y a beaucoup de particuliers qui se sont positionnés et certains qui commencent à faire comme en Asie, où là, on connaît un petit peu le mécanisme, mais où chaque phase de repli est peut-être l'occasion de se replacer. Hein. Les spécialistes de l'or nous le disent. En tout cas, c'est peut-être une source intéressante.
Ouais. Y a la Chine, là, c'est le 19e mois consécutif. Ouais. Finalement, ils augmentent en fait leurs réserves aussi au niveau de la Banque centrale. Donc, les banques centrales sont toujours net acheteuses depuis le début de l'année. Ça va continuer ainsi. Ouais, ça va être une bonne transition, je pense, aussi sur tous les sujets de souveraineté
qu'on
va pouvoir aborder. Et le sujet de l'or en fait partie.
C'est un petit peu un jeu de dupe, d'ailleurs, sur les marchés, parce que, bon, on joue le dollar valeur refuge, mais parallèlement, on voit un phénomène de dédollarisation qui est une tendance, bon, je dirais pas lourde et décisive pour le moment, mais qui est quand même bien installée. Donc, le dollar valeur refuge. Et puis par ici, l'or, quand même. Bon,
c'est... Oui, alors. Là, ce qui fait quand même le jeu, comme le disait Bastien, ouais. C'était surtout, bah voilà, on a le dollar qui se renforce, ouais. Parce que mécaniquement, on a Kevin qui, moi, je pense, va peut-être augmenter, peut-être davantage ses taux. Hein. Moi, je suis plutôt dans cette direction.
En tout cas, il est beaucoup plus dans cette direction. De ce côté-là que prévu. Oui.
Exactement. Et donc, pour moi, c'est pour ça qu'il va jouer la limite pour cette partie. Donc là, déjà, c'est un peu calmer l'inflation par rapport au pétrole. On a cette partie or, effectivement, qui se dégonfle un petit peu. Et en fait, l'or est quand même lié à l'argent. Il y a quand même une corrélation. Sauf que l'argent, là, elle se déprécie deux fois plus vite que l'or. L'argent est quand même corrélé à cette valeur un peu refuge. Par mécanique sur par rapport à la à l'or, et puis elle est aussi vecteur industriel, donc on voit bien qu'elle est là. S'il y a pas de demande, s'il y a pas, etc., on va jouer ça, donc on va jouer un peu le repli. Donc mécaniquement, c'est vrai que si, bah, comme disait Bastien, bah, l'or faiblit, c'est parce que si le dollar s'est renchéri, donc du coup on a plus de mal à acheter, hein, parce que du coup ça coûte plus cher, donc c'est pour ça que l'offre est un peu moins importante.
Puis il faut pas oublier que l'argent est monté en flèche aussi dans le sillage de la grande ruée vers l'or.
Exactement.
Et ça a un peu amplifié le mouvement. Oui.
Exactement. Et puis après, les investisseurs se sont dit, tiens, j'ai des appels de marge, donc forcément, je me retire. Donc ils ont retiré d'énormes positions, et c'est pour ça que ça fait redescendre les éléments. Mais c'est vrai que là, sur cette dynamique de taux, en tout cas, je pense qu'elle avait augmenté, et puis l'or va un petit peu reculer pour le moment. Il faudra encore un peu des éléments, je dirais, mécaniques hein, sur le marché pour pouvoir dire, bah, tiens, est-ce que l'or repart à la hausse ? Je suis un peu sceptique aussi par rapport à l'or, même si la dynamique des pays émergents, c'est de quand même monter à 25% dans leur bilan d'avoir de l'or. Enfin voilà, c'est la dynamique, elle est là, mais est-ce que on n'est pas arrivé sur des phases trop hautes, entraînées en termes de valeur refuge, alors que là on voit une reprise, en tout cas des US, enfin, qui reprennent la politique monétaire un peu de manière un peu plus strong, un peu plus dure.
Ouais. Absolument. Et là, encore une fois, on se retrouve autour des problématiques de souveraineté. On change un peu de sujet, même si on reste un petit peu sur... C'est un petit peu chacun pour soi. C'est-à-dire que là, il y a quand même une décision qui vous intéresse tous les deux. Et c'est cette décision du gouvernement de choisir Schaps Vision par rapport à Palantir pour nos opérations sensibles, pour la DGSI, etc. Je serais tenté de dire... Il y a quelques mois, l'Allemagne nous a quand même vendu qu'elle allait construire son cloud souverain avec Amazon. Il n'y a personne qui les a regardés en disant « non mais ça ne va pas ». Et dans le même temps, je serais tenté de vous dire « encore heureux, vu la proximité de Palantir avec le pouvoir américain et alors surtout avec la galaxie Trump, etc. Est-ce qu'on va fournir notre cloud souverain pour les informations sensibles à une boîte comme ça ?» Bon, on peut dire que c'est de bon sens, mais on a l'impression que c'est un chemin qui est paradoxalement assez lent, finalement.
Peut-être qu'on commence enfin à réagir. On va dire qu'aux États-Unis, en France et en Europe, on a souvent tendance à subventionner les sociétés plutôt finalement qu'à les utiliser, à leur créer du chiffre d'affaires comme c'est le cas là.
Voilà, en étant un client.
Ouais, en étant client, exactement. Les États-Unis, c'est exactement ce qu'ils font. Ils bossent quasiment qu'avec des acteurs américains, et ce qui fait que ils ont des gros moyens et ça permet de se développer aussi de manière, d'un point de vue international. Le marché est beaucoup plus gros. Là, on voit quelque chose qui est assez intéressant. ShapeVision, c'est une boîte qui est assez récente. Hein. C'est seulement depuis 2019 qu'elle existe. Elle travaille déjà avec l'Allemagne, et notamment les services secrets allemands. L'Allemagne a déjà sorti Palantir de son scope. Là, la France est en train de le faire. Pour information, ils ont un contrat jusqu'en 2028, donc ça va se faire aussi de manière progressive. Et on voit que c'est un peu un effet domino. Pourquoi ? Parce que là, je regardais, il y avait aussi la Pologne et le Danemark qui sont aussi en train de se poser les mêmes questions. Et mine de rien, France-Allemagne, c'est un peu plus d'un tiers, on va dire, du PIB européen. Donc, quand ce genre d'acteur commence à faire des appels d'offres et des audits en disant peut-être que c'est mieux de se positionner sur un autre acteur que celui qu'à peu près tout le monde a aujourd'hui, c'est assez pertinent. Palantir, ils étaient assez largement en avance, on va dire, aussi sur ces sujets-là. Donc, c'était pas si idiot que ça de bosser avec eux à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a un acteur, en fait, qui est capable de faire un job assez similaire sur l'analyse. Le sujet, en fait, c'est l'analyse de la data. Donc, data critique, donc tout ce qui est fraude, lutte contre le blanchiment, etc. Et finalement, ils sont capables de très bien le faire aussi, ShapeVision. Donc, très bien, au moins qu'on fasse travailler les pépites françaises et européennes en priorité.
Le seul problème, j'allais dire, Olivier Le Chevalier, vous suivez ça de près, notamment vis-à-vis des métaux critiques, des choses vraiment très sensibles, parce qu'on est sur le même niveau de souveraineté, hein, finalement, c'est ce sentiment à la fois qu'il faut réveiller l'Europe, mais qu'en même temps, à chaque fois, c'est un peu chacun pour soi. J'en veux pour preuve les récents programmes communs entre l'Allemagne et la France qu'on n'arrive décidément pas à mettre ensemble sur un projet commun, que ce soit le SCAF. C'est pas nouveau, hein. Le Rafale était né parce que, justement, il y a un projet commun qui avait capoté aussi. Résultat, on s'est retrouvé avec le Rafale d'un côté et le Typhoon de l'autre, qui sont à peu près les mêmes avions, globalement.
Et Airbus. Il y a juste Airbus.
Oui, voilà. Alors, du coup, c'était cet ensemble-là. Mais, on a l'impression qu'on a deux couches de souveraineté, finalement. Et c'est peut-être ça qui est le plus compliqué à gérer sur les marchés, finalement.
Effectivement, on a le sujet des outils, mais sur les métaux critiques, c'est vrai que là, on l'a revu. Enfin, là, du coup, c'est un peu outre-Atlantique, parce que c'est une société américaine qui a récemment acheté une société pour 1,9 milliard, quand même, hein, un aimantier allemand. Enfin, voilà. Parce que du coup, en fait, tout le monde se dit, le détroit d'Ormuz, quelle est la leçon? Il faut quand même récupérer une autonomie, il faut quand même être indépendant, il faut pouvoir être autonome. Donc ça, de toute façon, on l'avait déjà vu, je dirais, pendant le Covid, ça commençait à démarrer. Je reviens toujours sur cet exemple, mais où le Venezuela avait dit, moi, je veux peut-être ma cotation du baril en yuan chinois. Donc du coup, ça avait fait un tollé, tout le monde n'était pas content, etc. Mais ça commençait. On commençait déjà à voir une scission du monde qui était en train de dire, j'ai d'un côté la Russie, j'ai d'un côté les États-Unis, et puis j'ai un peu l'Europe qui joue de manière un peu soft au milieu. Et puis maintenant, ça commence à s'accentuer de plus en plus. Le détroit d'Ormuz a bien montré que chacun devait jouer sa partition, que chacun devait se garantir sa souveraineté. Et même au niveau européen, on voit bien qu'on n'a pas toujours les mêmes intérêts et la même dynamique entre pays du Sud, pays du Nord, et qu'on n'a pas les mêmes programmes. En plus, aujourd'hui, hier, c'était les 10 ans du Brexit, donc on voit bien que la trajectoire de sortir de l'Europe, pour eux, a été plutôt négative. Mais tout ça fait quand même qu'il y a quand même une partition qui se joue à l'intérieur de l'Europe et une partition qui se joue un petit peu avec les extérieurs. On est en train d'essayer de gagner son indépendance tout en faisant croire aussi qu'on va s'appuyer sur les voisins. D'un côté, je trouve pas ça forcément normal. Alors du coup, si on parle d'être autonome en Europe, qu'on laisse partir, une société allemande dans les mains d'une société américaine parce qu'ils veulent contrôler la partie métaux rares, etc. On le voit parce que du coup, la Chine, elle a réagi aussi. Elle a commencé à rebloquer un peu des exports en disant vous voyez, vous faites un gros rachat. Super, c'est sympa.
Et moi, je riposte. Et notamment sur ce secteur-là. Qui sont très vigilants sur les. Et notamment, notamment les rapports avec les sociétés américaines à ce niveau-là.
Exactement. Donc, vous avez. En plus, la Chine joue aussi le rôle de dépollueur au niveau mondial. Donc, c'est sûr qu'elle se récupère pas mal de métaux et donc, forcément, elle peut les réutiliser. Mais vous voyez, on se retrouve vraiment dans une phase critique où là chacun va jouer sa partition. On l'a vu sur le pétrole, c'est dit on n'a jamais mis autant d'efforts aussi pour pouvoir produire du jet kéro pour que les sociétés d'aviation ne soient pas impactées plus que ça et que tout le monde puisse continuer de voyager. Mais en fait, on est en train de se rendre compte que On a mis beaucoup d'efforts là pour devenir autonome d'une manière générale. Et les projets ESG qui étaient de dire je fais de l'éolienne, de l'énergie verte, en fait, elle n'est pas là forcément pour remplir ce, peut-être ce premier plan, mais plutôt ils sont remis au goût du jour parce qu'on veut être indépendant énergétiquement.
Ouais, on avait mis la charrue avant les bœufs finalement.
Il fallait trouver, je pense, quand la dynamique des marchés était relativement basse, un peu dynamique, trouver des incentives pour les sociétés pour qu'elles puissent y aller. Alors que là, on a vraiment un incentive relativement important, redevenir indépendant, et donc on le voit sur tous les pans. On le voit sur la sécurité, on le voit sur l'énergie, et on le revoit sur le tissu économique.
Bastien Baron, ce chacun pour soi général, et malgré tout avec ces couches successives de souveraineté et de prise de conscience d'un certain nombre de problématiques, ça peut être justement, encore une fois, un élément de plus à ajouter à cette espèce d'univers où on n'hésite plus trop à parler de déflation, de récession, etc. Ça peut être un obstacle de plus.
Alors, je pense que du coup, ça peut être l'effet inverse, mais je pense qu'on est en pleine démondialisation et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit juste avant. On voit que la Chine, justement, a un peu les cartes en main et que peut-être que les terres rares, c'est un peu le pétrole d'il y a un siècle et plus, et que finalement, ils le contrôlent. Donc, ils contrôlent une grosse partie aussi du raffinage et ce genre de choses. Donc, ça, c'est un vrai sujet. On voit aussi que par rapport au pétrole, pour boucler un peu la boucle, la Chine, sur l'évolution de la demande d'énergie dont elle a besoin depuis 2 ans, finalement, c'est là où elle a extrêmement augmenté, on va dire, ses capacités photovoltaïques et éoliennes.
Donc, c'est bien avancé. Hein. Voilà. Bon, c'est toujours 60% de charbon, mais ça avance vitesse grand V sur ce qui est panneaux solaires et éoliennes, bien sûr.
En gros, la moitié du développement mondial, en gros, il se fait en Chine aujourd'hui. Le sujet, donc ça va très vite. Et on se rend compte que si on veut redevenir souverain, mine de rien, on s'est pris... en 2022, il y a eu le sujet du gaz russe. Ensuite, on voit qu'il y a le détroit d'Ormuz. Si en Europe, on veut redevenir un peu plus souverain, il y a le nucléaire, mine de rien, qui revient au goût du jour, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Non.
Et le plus rapide, c'est quand même l'éolien et le photovoltaïque. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'au départ, l'argument ESG qui était mis en place, c'est un petit peu toujours ce qu'on avait dit. C'est tant qu'il n'y a pas un événement un peu capitalistique qui permet, on va dire, de conjuguer bénéfices, rendements et sujet ESG, ça ne marchera pas. Peut-être que là, on est en train de le trouver. Et au contraire, par rapport à la déflation, c'est peut-être un peu l'effet inverse. Alors, la croissance, ça, c'est un vrai sujet, mais ça peut être inflationniste, justement, en fait, de remettre, on va dire, un certain nombre de sujets en interne et en Europe. C'est évidemment pas les mêmes coûts que de le faire ailleurs.
Bastien Baron de Justae et Olivier Le Chevalier de DevTech, merci infiniment d'avoir été avec nous, passionnant ces problématiques de souveraineté et d'énergie. Et dans une seconde, des arbitrages, bien sûr.
Tout pour investir. Arbitrage.
Valentin Nicot de Bourse Direct, bonjour.
Bonjour Antoine.
Et donc, le CAC 40 qui surperforme, plus 0,28%, 8364 points, le luxe, les biens discrétionnaires, mais tout ça, ça nous aide à surperformer. Les marchés européens, bon, malgré tout, c'est pas monstrueux, plus 0,28% contre un Eurostock 50 à moins 0,14%, mais enfin, c'est toujours bon à prendre. Et puis surtout, on reste immunisé contre la très forte volatilité des marchés américains.
Ouais, absolument. Donc depuis la réouverture et la bonne nouvelle, on avait évoqué ensemble, on visait nous en tout cas un comblement du gap à 8550. On s'est arrêté juste avant à 8500. Maintenant, on reste investi sans prendre de nouvelles décisions, on va dire, parce qu'on s'attend à une latéralisation de l'indice plutôt. Et on avait vu ensemble la fameuse réaction sectorielle qu'on commençait à avoir un petit peu se mettre en place. Donc on reste dans cette thématique avec les dossiers qu'on avait pré-choisis sur cette rotation, en pensant que justement ce mouvement latéral va se faire par une prise de bénéfices d'un côté et une hausse et on l'espère des secteurs qu'on avait vus ensemble. Et donc pour faire court, on avait donc évité tout ce qui est semi-conducteurs. On pensait que l'énergie aussi fallait éviter, même si on commence à arriver sur de beaux niveaux, la baisse s'est fait assez vite. On préfère aussi se mettre à l'écart des banques qui ont de très belles performances. Donc on était allé plutôt sur le luxe qui malgré tout a quand même un peu de mal à se reprendre, notamment Hermès surtout, un peu plus confiant sur LVMH. Et puis on avait fait aussi un préavis sur les spiritueux. Beaucoup plus spéculatif, mais avec éventuellement une grosse performance. Et maintenant, on aime bien également ce qui est secteur, donc tout ce qui est touche à l'électricité et à l'infrastructure plutôt électrique. Donc notamment Legrand, Schneider, avec donc un lien à l'IA. Donc ça nous a évité le mouvement trop spéculatif sur l'IA. En revanche, c'est quelque chose d'énormément porteur et connecté à l'IA malgré tout. Et on pense qu'il y a encore pas mal de performances à prendre. Voilà pour l'essentiel, ouais.
Ouais, et puis il y a l'IA et puis il y a l'électrification de l'industrie et de la société, hein, de manière générale, qui reste vraiment des dynamiques de long terme et qui sont liées. Alors on le voit, le CAC 40, bon, après avoir touché un plus bas à 8335, a l'air de vouloir faire une petite hausse, une petite tendance d'un petit peu plus long terme. Malgré tout, il faudra attendre l'ouverture de Wall Street pour avoir le vrai diapason. Quel autre actif vous regardez ce matin? Il y a quand même l'euro qui s'est installé bien bien sous 1,14, hein, puis on n'en bouge plus maintenant face au dollar.
Ouais, alors ça, pour l'euro dollar, je vous avoue qu'on n'a pas trop d'analyse de court terme là-dessus. On reste plutôt méfiant parce qu'on avait eu la baisse des taux récente aussi sur le côté BCE qui était attendue, mais apparemment pas forcément certaine étant donné les derniers mouvements. Donc là, peut-être qu'on arrive sur des niveaux de support, on va se reprendre suite à ce mouvement un peu exceptionnel. Uniquement techniquement, on s'attendrait plutôt à une reprise légère de l'euro. Et c'est surtout, je voulais voir aussi sur l'indice quand même, parce que on va arriver là dans la période estivale, on s'attend à latéraliser, mais techniquement, en gros, on pense qu'on va rester dans un plan large, 8500, 8100. Et avec une zone d'alerte pour comme vous le savez, mi-juillet, début août, ce sera les résultats semestriels où on se mettra une borne à 7950 en guise d'alerte, voilà, en espérant qu'on passe pas en dessous. Et sinon, il y a bien sûr l'or et l'argent aussi, on entend beaucoup parler. Où là, on reste méfiant parce qu'on est sur des tendances plutôt très baissières avec des sommets de plus en plus bas. Et de notre côté, en tout cas, on pense qu'il y a encore beaucoup de place. Donc, et l'effet de d'annonce et de corrélation avec les indices commence à s'inverser un petit peu. Donc nous, on resterait méfiant. Ouais, on resterait méfiant sur les métaux précieux pour l'instant.
Ah oui, parce que ils sont libellés en dollars et le truc que personne n'avait prévu, c'est que le fait que le dollar devienne la valeur refuge par excellence. Et donc ça, ouais, ça change.
Ouais, ça a participé absolument au mouvement aussi, ouais.
Ça change le paradigme. Merci beaucoup, Valentin
Nicot,
Bourse Direct. 4094 $ pour l'once d'or fin qui est encore en baisse ce matin et qui attaque tranquillement le support symbolique des 4000. On est à 61,34 sur l'once d'argent. Et le CAC 40, donc, qui signe une belle performance, une belle surperformance même par rapport aux autres indices européens qui gagnent 0,33%. 8369 points. Une petite pause et puis on va parler patrimoine, on va ouvrir la boîte à outils. Et puis, essayer de répondre à une question à laquelle personne n'arrive à répondre en ce moment. C'est quoi être riche? C'est quoi un haut revenu? C'est quoi un haut patrimoine? On va essayer de trouver les réponses avec Olivier Janoret du Rock Partners qui sera avec nous en direct dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
La boîte à outils, on l'ouvre, il y a toujours des outils dedans, évidemment. Il y a un mètre qui permet de mesurer les choses et il y a autour de cette définition même de la métrique, des questions philosophiques qui se posent. Et surtout, quand on parle de patrimoine, c'est quoi être riche? C'est quoi un haut revenu? C'est quoi un haut patrimoine? Et bien, même nos parlementaires et même nos dirigeants n'arrivent pas à donner une réponse précise. On va essayer de trouver quelques réponses avec Olivier Janoret de Duroc Partners. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors heureusement, on est affranchi de toute considération politique. Mais voilà, il y a une commission d'enquête là, en ce moment qui travaille sur c'est quoi être riche? C'est quoi, comment taxer de manière à la fois équitable et proportionnée les hauts patrimoines, les hauts salaires, etc. Et pour l'instant, globalement, on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas, ouais. et on ne parle même pas d'une commission, il y a deux commissions. Il y a l'Assemblée nationale qui a la sienne, oui. Il y a le Sénat. Qui a la sienne. Le Sénat vient de publier son rapport. L'Assemblée nationale, on devrait avoir un rapport au mois de juillet.
Et vous pourrez être sûr qu'ils ne seront pas d'accord l'un avec l'autre?
Je pense qu'il y aura quand même quelques axes, en tout cas, d'accord en la matière. Juste pour revenir, l'origine de ces commissions d'enquête, c'est une phrase d'Éric Lombard, de l'ancien ministre, qui disait qu'il y avait plus de 13 000 personnes en France, foyers fiscaux, qui payaient de l'IFI, de l'ISF avant, de l'IFI aujourd'hui, l'impôt sur la fortune immobilière, sans payer d'impôt sur le revenu. Il y a quand même quelque chose qui pouvait être étonnant dans ce constat-là. On a un patrimoine, mais on n'a pas de revenu taxable. Et donc de là, on a ces deux commissions qui se sont lancées. Le Sénat a publié son rapport. L'Assemblée devrait, comme je le disais, publier le sien dans quelques jours, quelques semaines. Il y a un constat qui est assez extraordinaire dans le premier rapport et qu'on devrait retrouver dans le second rapport, c'est qu'on n'a pas de définition de qui sont les riches.
Ben, voilà.
Il n'y a pas non plus, et ça c'est important, il n'y a pas d'affirmation comme quoi les riches, si tant est qu'on puisse les définir, ne payent pas d'impôts. Ou pas
en
suffisamment.
Plus. Ben oui, en plus.
Et au contraire, là où il devrait y avoir un point d'accord, c'est qu'on ne sait pas mesurer la richesse, on ne sait pas qui a de la richesse, qu'on est dans une période aujourd'hui où il y a de la numérisation de toute la documentation, il y a l'intelligence artificielle qui est sur la table, tous les jours on en parle, et pour autant, l'administration fiscale, Bercy, n'a pas d'information sur les patrimoines les plus complexes. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, on a beaucoup d'informations qui sont transmises automatiquement. L'employeur doit transmettre les salaires de ses salariés. Ouais. Les banques doivent transmettre les plus-values, les dividendes, les intérêts qui sont réalisés par leurs clients. Mais quand on a un patrimoine complexe, à l'époque de l'ISF, il y avait des obligations déclaratives annuelles.
Oui, tout à fait.
Après, chacun pouvait avoir une certaine latitude, en tout cas dans ce qu'elle intégrait dans sa déclaration, même si tous les éléments de patrimoine devaient être indiqués. Mais aujourd'hui, avec l'impôt sur la fortune immobilière, on a fait un pas en arrière sur la connaissance. Et justement, c'est ce que pointe du doigt le Sénat aujourd'hui, ce que devrait pointer du doigt l'Assemblée nationale demain, c'est qu'on n'a pas la mesure, on ne sait pas ce qu'il en est. Et ça veut dire quoi? Surtout, c'est ça qui est important, il y a un constat journalistique, politique, c'est que tout le monde a faux. La droite qui dit que les riches payent déjà suffisamment d'impôts, ils ont faux, nécessairement, puisqu'on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas la mesure. La gauche qui nous dit les ultra-riches ou les riches ne sont pas suffisamment taxés, ils ont faux également. Mais aussi tous les économistes ou commentateurs qui viennent nous dire il faut réformer la fiscalité pour réduire les inégalités, ben ils ont faux également. Gabriel Zucman, dont on a énormément parlé ces derniers mois, ben très probablement, il a faux également parce que on n'a pas la mesure de ce que sont les patrimoines aujourd'hui des Français et des 0,1% les plus riches, parce que c'est ça qu'on essaye de viser dans ces rapports.
Alors, c'est intéressant parce que on a premièrement des obstacles politiques, puisque de droite, gauche, définir la richesse, c'est quand même prendre un risque. Et ensuite, on a ce manque d'informations. Et est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on va quand même être capable de dire ça appartient à, c'est soumis à telle taxe et à telle imposition, ou est-ce qu'on va continuer à patouiller finalement du côté du régulateur comme du côté du soumis à l'impôt, qu'il soit riche ou pas finalement?
Il y a la barrière psychologique qui est partagée par tout le monde, vivons euro, vivons caché. Donc être tous les ans confronté à devoir faire une coloscopie fiscale de son patrimoine, on n'en a pas très envie. Donc c'est certain qu'il va y avoir de la réticence du côté des contribuables, et le politique n'est rien d'autre que le reflet de ses contribuables.
Bien sûr.
Donc ça m'étonnerait qu'on fasse un pas en avant. On a 15 ans de retard en termes d'information en la matière. Pouvoir rattraper ce retard en un an, deux ans. Je ne sais plus quel. Les journaux ont tous fait leur titre comme ça, et je crois qu'il y en a un qui disait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est dans la panade en réalité en la matière. Et donc 20 ans de retard, ça ne va pas se rattraper en quelques mois, quelques années. Avec cet horizon de 2027, où clairement la fiscalité du patrimoine est un sujet de campagne. On le voit, avant ces commissions d'enquête, on a eu tout le laïus sur la dernière loi de finances avec cette taxe Zucman qui est devenue une taxe sur les holdings très mal ficelée, etc. Clairement, on a un sujet qui va être très lourd sur 2027. Quel que soit le camp qui l'emportera demain, ça sera un sujet à traiter. Et pour autant, si le leitmotiv, c'est toujours réduire les inégalités par des réformes fiscales, on n'a pas la donnée pour.
Cela dit, vous me dites 15 ou 20 ans de retard. Si je remonte 15-20, c'est pas la période où l'immobilier a commencé à grimper? Est-ce que c'est pas le principal problème finalement?
Exactement. Alors, c'est aussi ce que viennent chercher ces rapports, c'est d'essayer d'expliquer comment les gens sont devenus riches. Et dans les différents facteurs, parce que c'est multifactoriel comme on peut l'imaginer, il y a le boom de l'immobilier. En réalité, la croissance de l'immobilier, la valorisation des matières premières qui était supérieure à la croissance du PIB, oui, a créé des richesses sur celles et ceux qui ont pu se positionner à un moment donné, quelque part, d'être arrivés au bon moment, au bon endroit.
Ça a fait de nous tous des pêcheurs de l'île de Ré, comme on les appelle.
Exactement, l'agriculteur qui est devenu retraité de l'île de Ré, qui est assis sur un patrimoine foncier qui est extrêmement important. Ouais. Donc ça, c'est un des facteurs. Mais l'augmentation de l'espérance de vie est un autre facteur.
Bah oui, aussi, oui.
La réduction de la natalité est un autre facteur, puisqu'on divise moins les patrimoines. On les divise plus tard, mais on les divise moins. Donc forcément, les inégalités ne peuvent que se creuser. Mais dans les autres facteurs, on a aussi le fait qu'il y a un taux d'épargne très élevé en France. Il y a une culture de la donation qui n'est pas du tout ancrée, c'est-à-dire qu'on attend les successions pour transmettre et on ne transmet pas avant de son vivant. Et d'ailleurs, c'est là où certains commentateurs autorisés, si on peut dire, de la loi fiscale se disent qu'il faudrait peut-être donner quelque part une carotte pour pousser les gens à donner.
Et ça, on vous le dit suffisamment jour après jour, c'est un processus qui est long et qu'il faut préparer bien à l'avance.
Exactement, et je dirais, dans mon escarcelle, il y a un des facteurs, c'est les taux marginaux d'impôts qui sont très élevés en France, avec des niches fiscales qui sont pléthorique. Mmh. Et un des exemples, on en a déjà parlé sur la fiscalité des transmissions, on sait qu'on a un barème progressif de l'impôt qui est à 45% au taux marginal entre parents et enfants, mais en moyenne, si on prend tous les Français, toutes les transmissions, on est à moins de 3%. Donc il faut quand même imaginer que tous ces éléments-là ne sont pas de nature à créer un climat optimal pour une meilleure transmission, réduire les inégalités, c'est aussi réduire les inégalités intergénérationnelles. Peut-être que c'est la première chose à faire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient faire en 1789, post-révolution. L'idée, c'était réduire les inégalités. La première des inégalités, c'était intergénérationnelle et entre les membres de la fratrie avant d'aller chercher les inégalités sociétales.
Bon, là, on a encore un bassin de réflexion. Et on n'y est pas encore. Hein. On manque vraiment d'éléments. Allez les voir. Allez toquer aux commissions, allez les voir, parce que vous avez quand même quelques, non pas des réponses, mais des éléments de réflexion qui sont quand même très enrichissants. Merci beaucoup Olivier Janoret du Rock Partners. Et on passe au placement à suivre.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Alors, je voulais vraiment les avoir au cœur de l'émission, parce qu'ils sont, et bon, c'est un peu le titre de la chronique, ils sont quand même à l'avant-garde de l'investissement privé en France, les family office. Quelles sont les priorités des family office en termes d'investissement, en termes de stratégie, en termes d'axe, en termes de temps long? On est avec Pierre de Pelgarpe, qui est porte-parole de l'Association française des family office. Bonjour.
Bonjour.
Alors, avec vous, on va commencer déjà par une super enquête. On va commencer par dresser le panorama. C'est votre 11e enquête. Elle est faite avec Ernst & Young. Les family office sont un petit peu à la fois le reflet du paysage de l'investissement en France, mais en même temps avec ce coup d'avance qui fait que les dynamiques sont en train véritablement d'infuser. C'est un peu ça.
Tout à fait. Et puis, je dirais, les familles qui sont suivies par les family office sont vraiment au cœur de l'économie française. Donc, c'est vraiment un révélateur de ce qu'est l'économie en France.
Alors, il y a un rééquilibrage des allocations sur l'année qu'on est en train de vivre, même si globalement, et c'est naturel, je veux dire, pour les family office, pour les grands capitaux qui sont concernés par ces problématiques, on reste très majoritairement dans le domaine du private equity, de l'investissement
Alors,
privé.
Tout à fait. Le grand enseignement de ce baromètre, de ce 11e baromètre, comme vous dites, c'est que, en fait, les familles, représentés par des family office, restent très investis malgré le contexte qui peut être un peu, je dirais, anxiogène parfois. Mmh. Mais les familles restent très investies. Ça, c'est le grand enseignement de ce baromètre.
Bon, ça, c'est intéressant parce que, et on vous le redit suffisamment souvent, voilà, il n'est pas question de dire oh, « je me désinvestis, ah, je me réinvestis ». Ben non, parce que sinon, on perd de la performance. Et puis, il faut toujours rappeler que le family office, il est là pour accompagner des entreprises sur le long terme et sur un certain nombre de secteurs qui ont besoin d'investissement.
Tout à fait. Et surtout, quand je dis être soin, reste investisse, mais surtout ce que l'on voit, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y en a parfois même qui vont, une bonne partie, près de la moitié, qui vont continuer à investir, voire renforcer leurs investissements. Ouais. Et vous le disiez tout à l'heure, sur quoi ils investissent, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est le deuxième enseignement, c'est que c'est le private equity, comme vous le disiez, qui est majoritaire dans les investissements à hauteur de 35% des investissements des familles. Ça, c'est très important parce que c'est proche de l'économie réelle. Ouais. C'est même proche de l'économie locale des familles.
C'est ça.
Et c'est ça qui est très important dans l'économie en France, c'est que les familles sont proches de l'économie réelle et de l'économie locale.
Et quels sont les secteurs d'activité qui sont privilégiés ? Moi, je me souviens quand on avait fait TPI l'événement, pas le dernier, mais l'avant-dernier, on avait eu une représentante aussi de votre association qui nous avait dit « Nous, on est totalement engagés de manière décisive sur tout un tas de secteurs, mais alors particulièrement sur le secteur de la santé ». Est-ce que c'est une tendance qui se vérifie un
Alors, petit cette peu tendance se vérifie. Ouais. Les trois secteurs d'investissement en private equity, c'est les technologies, la santé et l'industrie.
Parfait. Bah, là, on a quand même un panorama totalement complet sur l'état de l'économie. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de se diversifier un petit peu plus, alors pas en termes de secteur, parce qu'on voit que les tendances sont bien installées, mais en termes de support d'investissement, en termes de technique d'investissement, je dirais, du côté des family office.
Alors, ce qui vient derrière le private equity, ce que l'on voit aussi également, c'est peut-être le troisième enseignement, c'est-à-dire qu'on voit la remontée des actions cotées. Voilà, donc on voit toujours cette tendance des familles à croire en l'investissement industriel, en fait,
bien sûr, oui.
Des actions cotées. Et puis, on voit remonter également l'immobilier patrimonial, il y a aussi une confiance dans la pierre qui revient assez fortement. Voilà,
donc c'est très intéressant.
C'est les deux, marches du podium, les deux autres marches du podium en termes d'investissement des familles sur ce baromètre à faux.
Et puis, j'allais dire, je suppose que le marché obligataire doit aussi avoir doit représenter une tentation dans le sens où les dynamiques là aussi sont installées avec l'inflation. On voit les taux qui remontent un petit peu partout. Donc, le family office a peut-être intérêt aussi de garder une petite poche obligataire bien comme il faut.
Le family office garde une petite poche obligataire, une petite poche monétaire. Il y a aussi une petite poche sur des sujets un petit peu plus diversifiés, des actions, des sujets du placement un peu plus diversifiés. Mais voilà, les trois marches du podium, c'est le private equity, les actions cotées et l'immobilier patrimonial.
Voilà, comme ça on est diversifié, mais en même temps avec des grosses assises, donc quelque chose de résilient. Dans la philosophie d'investissement, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent ? Évidemment, naturellement, le family office, il est là pour investir sur le long terme. Est-ce qu'il y a des considérations de rendement, des considérations de croissance ? Qu'est-ce que vous privilégiez, en fait ?
En fait, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, d'un contexte géopolitique qui est un peu perturbé, un contexte macroéconomique, fiscal qui peut aussi poser des questions et qui reste d'ailleurs au cœur des préoccupations. Ces deux sujets-là restent au cœur des préoccupations du family office. Ce que l'on voit évoluer, c'est qu'il reste investi, mais avec beaucoup plus de vigilance et de sélectivité. Donc ça, c'est vraiment les deux maîtres mots qui nous disent.
Oui, parce que j'allais dire, en fait, ce que le family office recherche, c'est encore une fois le rendement de long terme. Les dynamiques de croissance, ça c'est plus le travail des business angels, c'est plus le travail d'acteurs un petit peu plus spécialisés. Le family office, il est là véritablement pour accompagner l'entreprise de A à Z et de tirer du rendement.
Tout à fait. Et donc, il va privilégier actuellement ce que l'on voit, c'est qu'il va faire très attention au risque. Le sujet de risque est primordial. Il va aller plutôt chercher des rendements de croissance, en fait, des investissements de croissance, de rentabilité. Et puis, vous l'avez dit très justement, le family office, et c'est ça qui reste le cœur des familles, c'est l'investissement dans la durée, c'est l'investissement long terme. Et je dirais que principalement, les familles, c'est des investisseurs patients, investisseurs de très long terme, et c'est ça qui reste l'ADN des familles.
Derrière, parce que vous dites principalement les entreprises qui sont aussi locales, qui sont de taille réduite, la notion de souveraineté, elle est au cœur finalement elle réapparaît au cœur de l'actualité en ce moment à travers différentes problématiques, mais elle est au cœur de l'action des family office finalement.
Tout à fait. La souveraineté est également une thématique qui est sous-jacente à tout ce que l'on vient de se dire, c'est-à-dire que l'engagement long terme, même si c'est l'ADN des familles, la souveraineté aujourd'hui vient renforcer cet engagement sur le long terme.
Et par exemple, sur tout un tas de secteurs qui sont concernés au premier chef par le private equity, alors on a parlé du secteur de la santé, par exemple celui de la défense, on voit d'énormes encours de private equity qui sont sur des petites entreprises, alors souvent familiales aussi, mais qui sont en train de changer complètement de dimension avec les commandes européennes, avec les dynamiques de souveraineté et de défense à l'échelon européen. Est-ce que les family office sont particulièrement actifs de ce côté-là?
Les familles sont, comme vous dites, très attachées à la souveraineté, mais la souveraineté, il y a la défense, bien sûr, mais il n'y a pas que la défense.
Non, bien sûr que non. Il y a l'infrastructure aussi.
Il y a les infrastructures, il y a l'alimentation, oui, il y a la santé.
Tout bêtement.
Voilà. Donc, c'est tous ces sujets qui font que les familles, sur le long terme, restent très attachées à la souveraineté.
Bon, super intéressant. Merci infiniment, hein, Pierre de Pelgars, porte-parole de l'Association française des family office. Et puis, vous reviendrez régulièrement un petit peu nous donner un panorama, justement. C'est vraiment l'avant-garde de l'investissement privé.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Plaisir partagé. Merci beaucoup. Une petite pause. Et puis, dans quelques instants, on va parler vin à consommer avec modération, surtout avec cette chaleur. Et on va parler vin de saison. Vous allez voir. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
On ne le dira jamais assez, on va parler de vin de collection avec Angélique Delinxin d'Idea Wine. Bonjour Angélique.
Bonjour Antoine, bonjour
il
à tous.
Il fait très chaud, on a tendance à boire beaucoup, il faut beaucoup boire, il faut boire peu d'alcool, mais si effectivement il y a une boisson qui rime avec été, c'est vin rosé. Et souvent le vin rosé, bah, c'est un vin qu'on boit tranquillement entre copains, avec le barbecue, évidemment avec modération, puis surtout avec cette chaleur. Est-ce que c'est un atout en collection, le vin rosé? Ça, c'est une question, parce que c'est vrai qu'on privilégie souvent les blancs, les rouges, les champagnes, du champagne rosé, on en parlera un petit peu plus tard. Mais, voilà, est-ce que le rosé, c'est un vin qui se prête à la collection et à l'investissement, de manière générale?
Alors, on peut en parler, effectivement. La France est quand même la première de la classe en matière de vin rosé, un peu sur tous les plans, puisque c'est le premier producteur de vin rosé au monde. Hein, pratiquement 30% des volumes produits sont français. C'est aussi le premier consommateur. On est très, très amateur en France de vin rosé, puisque on consomme en toute modération, mais tout de même 15 litres par an et par habitant de vin rosé, ce qui représente 35% de la consommation mondiale.
Wow.
Et puisque on a besoin de vin, on en importe. On est aussi le premier importateur, avec 29% des volumes importés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que comme on produit des rosés de grande qualité, nous sommes également le premier exportateur de vin rosé au monde. Donc, vraiment, premier sur tous les plans. En revanche, si on regarde les enchères, hein, comme je le dis souvent, les ventes aux enchères et la répartition par région ou par typologie de vin offrent une bonne photographie de ce qui doit être mis dans la cave d'un amateur dans une perspective patrimoniale. Et alors là, les vins rosés ont représenté l'an dernier sur Ideal Wine 0,5% des vins qui ont été adjugés, c'est-à-dire un petit contingent d'un peu moins de 1700 bouteilles sur les 309 000 qui sont passées sous le marteau d'Ideal Wine.
Oui, parce que j'allais dire, effectivement, l'essentiel de la production, c'est des vins qui sont plutôt pas trop chers. Et malgré tout, on reste sur des niveaux de prix élevés sur les bouteilles qui sont adjugées. Ça veut dire qu'on privilégie vraiment la qualité.
La grande qualité. Ouais. Oui, si vous prenez le prix moyen de ces fameux 1700 bouteilles, 1677 exactement, qui ont été adjugées, il est de 56 euros. Donc, on est très au-delà, en fait, le prix moyen. En grande surface, le prix moyen va de 3 à 6 euros. Chez un caviste, c'est un petit peu plus élevé, c'est un peu plus de 10 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est que les vins qu'on importe, qui sont principalement des vins rosés espagnols, c'est autour de 1 euro à peine. Et en revanche, les vins que nous exportons, nous les Français, ils sont au-dessus de 8 euros. Vous voyez, les enchères, vous voyez, on est très très au-dessus. Et je pense d'ailleurs que les vins, si on prend les vins les plus chers qui ont été adjugés parmi les vins rosés l'an dernier, ça n'est pas parce qu'ils sont des vins rosés, c'est plus leur provenance et leur rareté qui ont permis d'atteindre ces niveaux de prix.
Là vraiment on est sur les terroirs. Quels sont si vous aviez quelques noms là rapidement de vins rosés qui sont dignes d'un investissement. D'une collection?
Alors, on pense souvent, quand on pense au vin rosé, on pense à la Provence, qui produit 40% de rosé français et qui consacre d'ailleurs 90% de sa production au vin rosé. Ce ne sont pas ceux qui se valorisent le plus dans les ventes aux enchères, même si vous avez de magnifiques appellations. Vous avez la micro-appellation de Palette avec le château Simone. Mais l'année dernière, vous avez eu un vin rosé de 1991 qui a été adjugé 63 euros. Donc, on reste dans des niveaux de prix qui sont relativement doux, si j'ose dire. Quand on parle d'un vin rosé. Vous avez le domaine de Terre Brune aussi, qui fait de magnifiques vins rosés. Et ça, c'est Terre Brune représente Bandol, cette appellation qui produit vraiment de très beaux vins, qui d'ailleurs ne doivent pas être bu trop vite. Hein, parce que souvent, le vin rosé, on a l'image que ce sont des vins qui sont à peine produits, déjà dans le verre, avec les glaçons.
Et, non, celui-là, il mérite de vieillir.
À Bandol, les vins méritent de vieillir. Donc, vous avez Terre Brune, avec un vin de 2014, je veux dire, qui a été vendu 58 euros l'an dernier. Et puis, vous avez des domaines comme le Château Prado, Pibarnon, les domaines Haute, Tour du Bon. Vous avez de très jolies signatures, la Bégude, Tempier, avec des vins qui se gardent, qui se valorisent doucement. Mais qui peuvent se conserver. Et puis vous avez au Beau-de-Provence, vous avez le domaine Ovette, le Clos Sibon en Côte-de-Provence, qui sont des vins qui peuvent produire des cuvées de garde.
Bon, intéressant. Pas oublier les rosés dans le lot, parce que c'est vrai que le champagne, bon, traditionnellement, on prend du blanc de blanc, mais le rosé, ça reste un petit peu l'exception de chaque marque. Chaque marque a un bon champagne rosé. Et voilà, et on a aussi une plus-value, une double plus-value sur cette classe d'actifs, si j'ose dire.
Tout à fait. Mais juste pour finir sur les rosés tranquilles, comme on dit, quand on parle de vin non effervescent, les plus chers sont issus de Bourgogne l'an dernier. Hein, sont des vins, vous avez...
pas forcément intuitif de se dire qu'il y a du rosé en Bourgogne, mais si.
Tout à fait. Ouais. Et là, on rejoint la grande rareté, comme je le disais, et on rejoint aussi le mouvement des vins bio, nature, d'essence nature.
Ah, ça vient de là un petit peu, oui.
Notamment, le plus cher de l'an dernier en rosé, c'est un vin des domaines des jardins, de Tino Kuban, qui a une maison de négoce, une petite structure de négoce qui s'appelle Maison Glandien, et qui exploite par ailleurs un domaine qui s'appelle les Jardins Vivants. Mmh. Et sa cuvée, c'est un vin de France, qu'il a appelé La Terre, l'Origine, en 2022, a tout de même atteint 588 euros la bouteille. Donc là, on est vraiment dans des prix records pour un vin rosé. Mais là, encore une fois, je vous dis, c'est pas son essence de vin rosé qui est recherchée, c'est clairement
c'est l'appellation, le domaine, la
notoriété de ce vigneron japonais.
Ouais, il est fait pour. On peut revenir aussi sur le... Ça paraît contre-intuitif aussi, mais il y a du rosé du côté des Pays de Loire, du côté de l'Auvergne.
Tout à fait.
Et puis évidemment, tous les vins Languedoc... Cévennes, là on revient, on se rapproche de la Méditerranée, mais sur des terroirs un petit peu plus intuitifs, j'allais dire.
Oui.
Tu en es un peu plus dans le nord, ça paraît.
C'est plus surprenant. Ouais. Bah, le Languedoc est la deuxième région de production de vin rosé. On a quelques domaines, effectivement, dans le Roussillon. Alors là, c'est plus le côté collector qui a poussé le prix vers le haut, les vins du Cabanon d'Alain Castex. On a un vin qui a dépassé le seuil des 100 euros, 106 euros. Et puis, on a Gérard Bertrand aussi, qui a sa cuvée du Clos du Temple, qui se valorise toujours bien dans les ventes aux enchères, à un peu plus de 100 euros également. Dans la Loire est une grande région de production de vin rosé, notamment, puisqu'elle produit dans toutes les couleurs. Et c'est plutôt dans son berceau, en Auvergne, que là, encore une fois, on rejoint le mouvement nature avec les vins du vigneron Lefort, Adrien Lefort, qui a aussi des vins qui ont dépassé les 500 euros la bouteille l'an dernier aux enchères.
Allez, on termine par les champagnes. Il nous reste 30 secondes. Là, les quelques appellations qui sont vraiment dignes d'intérêt pour un investissement.
Là, c'est surtout les grandes maisons qui se distinguent.
C'est comme le nom,
vous avez Dom Pérignon 95 qui s'est vendu plus de 1377 euros l'an dernier. Vous avez Cristal dans le magnifique millésime 2002.
J'ai découvert avec vous en préparant l'émission que Cristal faisait du rosé. Je n'en avais jamais vu.
Rarissime.
Voilà. Déjà rarissime en tant que tel, mais alors rosé.
Voilà. Oui, la maison Roederer, les
premiers. Oui, Roederer.
Au compte-goutte. Donc là, on retrouve. Mais on a aussi des coteaux champenois, donc non effervescents, qui se valorisent très bien aux enchères, comme ceux d'Adrien Lurquin.
Mais écoutez, merci infiniment, Angélique de Linxin, Ideal Wine, pour ce focus sur les vins rosés, champagne rosé. Effectivement, à boire avec modération, surtout avec cette chaleur. Soyez prudents et buvez plutôt de l'eau. On se réservera ça à des temps un petit peu plus cléments. TPI, c'est fini pour aujourd'hui. Les Experts IMO, c'est dans un instant avec Marie-Cœur de Roy. Et je vous retrouve pour BFM Bourse aux côtés de Guillaume Sommerer tout à l'heure, 15h30. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.